suite.
On est écouté là ?
Ben oui, nous sommes à la radio, Gérard.
Eh oui, et je me suis fait chier.
Le meilleur, le pire, la radio panique, c'est le Zapnik, le Zap. C'est le Zapnik.
Machine à voyager sur les ondes, le Zapnik fait halte sur toutes les stations du monde à la rencontre d'objets vocaux non identifiés, d'informations astrales, de constellations sonores, d'humour lunaire. Pendant une heure, le Zapnik est en orbite, en solo, en duo, en trio, en quatuor, en quintette, en orchestre. Il nous joue au micro la cacophonie des étoiles. Exercice d'écriture, d'improvisation, de lecture, jeu de vieux ados, à deux ou à trois, dans l'excitation du direct, le Zapnik lance au futur un message par la voix du son, le laisse échapper de sa bouteille. Born to be dumb. Crieur public de la satire et des parodies de la radio d'hier et d'aujourd'hui, le Zapnik souffle, en ce 1er avril, un vent délirant à vos oreilles.
About telling a story, one that's really about somebody, what they saw and what they did, how they died and how they lived. But by the time I found a name, I moved on to another game. For rice on toes and spines, 'cause goddamn, you know I can't think of any storyline. But you know I'd love to try and sing about a person, place, or thing. Mount Sinai and the Wolfman, Kathmandu on his name. Something happens up in Tucson, then it happens again in Maine. San Francisco, sweet thing, la da 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 da, no no.
Parfois, on n'a plus envie de rien, même de ce que l'on a envie.
Mais l'important, c'est de pouvoir en parler.
Dites suédois, j'ai eu assez de problèmes comme ça.
Oui, j'aime les bêtes, et elles me le rendent bien.
Parfois, on n'a plus envie de rien, même de ce que l'on a envie.
Ce sera notre secret, Mélissa, comme un moment magique qui n'appartient qu'à nous. Hmm?
Oui, enfin, je sais pas. C'est tout de même un peu...
Ok, tu fermes ta gueule, hein. T'as compris, Mélissa? Ou ce sera bien pire après, Mélissa? T'en parles à personne, t'as bien compris?
Oui, Franck, oui.
C'était Après l'amour, votre grande saga radiophonique. La semaine prochaine, nous découvrirons comment Bobby s'est débarrassé d'Éléonore afin de couvrir le viol de Franck sur Mélissa sans que celle-ci ne s'en aperçoive.
Mais il n'osait même pas s'embrasser. Elle avait peur d'attraper un bébé. Mais il n'osait...
Non. Je me souviens pas.
Faites un effort, Michel, rappelez-vous.
Non, vraiment, Je me souviens pas.
Le meilleur, du pire, de Radio Panique.
C'est Radio Amnésie.
Le Zap.
C'est le Zapnik.
Vous êtes bien à l'écoute du 105.4.
Aujourd'hui au micro, Stanislas Broder, pour votre émission favorite, Face aux grands hommes. C'est avec un plaisir immense que je reçois aujourd'hui l'artiste Chouvkov, Kazimir Ilitch Chouvkov.
Oui, bonsoir.
Vous nous avez accueillis chaleureusement lors du vernissage de votre exposition qui, quelque part, est presque éponyme pour cette...
Oui, tout à fait. Elle s'appelle également Face aux grands hommes. Voilà. C'est une troublante coïncidence, je dois dire.
Alors, ce que je voudrais savoir, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur ce thème, Face aux grands hommes, vous, l'artiste Chouvkov ?
Bien sûr, il n'y a pas de problème. Pourquoi peindre les grands hommes d'histoire ? Ça a commencé comme ça. J'étais peintre officiel de Staline au début du régime soviétique. Ensuite, vous savez ce que c'est, hein. Il arrive des moments dans votre vie où il faut choisir un camp. J'ai choisi l'Allemagne nazie. C'est un choix dur à faire, mais...
Mais pour mieux comprendre ça, peut-être...
Que j'ai assumé.
Nous pourrions revenir un petit peu sur votre histoire.
Oui, si vous voulez, oui.
Vous êtes né à Smolensk, oui, en 1910. Exactement. Et c'est en 1901 que vos parents sont tué, torturé et violé par Nestor Makhno.
Oui, tout à fait. Et coupé en morceaux aussi.
Ce qui a inspiré une partie de vos œuvres.
Oui, toute ma partie est un peu plus déconstruite.
En 1923, vous partez vivre avec votre oncle Ilitch à Tbilissi. Et c'est là que vous vous brisez une jambe en tombant des nues en 1927. Mmh. Et 1934, c'est cette rencontre décisive avec Staline.
Oui, Joseph, oui. Oui.
Un grand banquet lors de cette période pourtant de grande famine.
Oui, on s'est bien régalé, nous, en tout cas.
1935-38, c'est votre série qui va vous faire connaître de par le monde sur les grands portraits de Moscou.
Oui.
Et alors là, c'est là que nos auditeurs vont pouvoir comprendre comment vous avez fait ce chemin.
Le basculement.
Donc c'est août 1939, lors du pacte germano-soviétique, les deux régimes s'échangent, la Pologne et vous-même. 1940, donc une grande tournée en Europe qui inspire à Brasillac le fameux « Je suis partout ».
Oui.
1941, Barbarossa, votre premier portrait officiel d'Hitler. Et en juillet 1942, votre première exposition d'envergure internationale à Paris, portrait d'hiver.
Oui. Oui. Et qui s'en suivra après, portrait final, un hommage à Heydrich.
On considère cela comme l'apogée de votre art, n'est-ce pas?
Je ne sais pas si on peut dire ça. Oui, c'est une étape importante, mais vous savez, ma carrière est très longue. Hein. J'ai 50 ans de carrière derrière moi. Donc, si en 44 c'est l'apogée de mon art, excusez-moi. Mais
oui, mais en 44 c'est là que vous êtes plutôt mise en danger par ce passé. C'est comme d'autres avant, comme le fauvisme, comme d'autres arts ont été comme ça maltraités. Être peintre nazi n'est pas de bon augure à la fin de la guerre. Et en 1944, vous profitez d'une filière juive pour vous échapper et rejoindre New York. Et c'est là qu'en 1945, vous signez un témoignage sur les camps de concentration dans le New York Times et vous obtenez le prix Pulitzer.
Oui, j'ai su vite me retourner, si j'ose dire.
Puis c'est votre portrait de Primo Levi en 1946.
Oui.
Et là, en virement, revirement, 1950, vous soutenez McCarthy. Avec cette citation et cette exposition, le communisme est une peste incurable à New York, avec des portraits de McCarthyistes.
Tout à fait.
1953, vous dénoncez par une lettre posthume Joseph Vissarionovitch.
Dites Staline, je crois que ce sera plus simple.
Il se voit obligé de prendre la fuite lui-même aussi. Voilà. Vous vivez chez votre oncle et puis 1991, c'est votre grand retour hein, après cette période vraiment de froid avec Staline. L'exposition des bites en céramique contre la guerre en Irak qui signe votre grand retour sur le marché de l'art international. Vous avez signé le manifeste pour la paix au Moyen-Orient aux côtés de Bono du groupe U2. Et vous avez d'ailleurs enregistré un disque avec U2, dont Bloody Monday, trois fois disque d'or en Biélorussie.
Oui, je fais les chœurs. Je fais les chœurs, pardon.
En 1992, c'est bites à fragmentation, céramique chirurgicale qui sont exposées à Bagdad. Et puis l'exposition Bites en furie qui est accueillie à la Tate Gallery de Londres. 1998, votre retour à Berlin avec votre célébrissime Fion blanc sur fond blanc, exposée au Guggenheim.
Oui, avec un S à Fion. À blanc et à fond et à blanc encore.
C'est très important pour vous, l'orthographe.
Bien sûr. Oui.
Là, vous reposez maintenant depuis maintenant une dizaine d'années avant de revenir avec cette exposition face aux grands hommes. Mais n'est-ce pas un choix étonnant finalement, tout de même au regard de tout cela, le choix de l'Allemagne nazie au milieu de votre carrière? Est-ce que ça a une résonance particulière avec votre enfance?
Pas du tout, non, Stanislas, je pense que vous vous fourrez le doigt dans l'œil jusqu'à l'omoplate, non, ça n'a rien à voir avec quelque chose de psychanalytique, Freud, tout ça, je veux baiser ma mère, enfin,
hein,
non.
Comment ça?
Non, en fait, c'est, comme je le disais précédemment, l'histoire m'a donné tort, il faut bien savoir choisir un camp, moi j'ai mis mes billes sur l'Allemagne nazie, voilà tout, c'est aussi simple que cela.
C'est la première fois que vous recevez la presse pour une interview exclusive. Mmh. Pourquoi vouloir sortir aujourd'hui de votre mutisme?
Je suis très baltus. Mon œuvre consiste à construire, à essayer de réinventer des choses qui ont existé un jour, mais que plus personne ne connaît. Je n'essaye pas de m'exprimer, mais plutôt d'exprimer le monde. C'est exactement ce que je fais avec ma série de portraits d'Hitler et de Staline aussi.
Et vous pensez que peindre aujourd'hui Hitler et Staline exprime le monde ?
Ce qu'on appelle l'utopie, mon petit monsieur.
L'utopie, mais vous pensez qu'un monde meilleur est possible, monsieur Chouvkov ?
Appelez-moi Illich, pas de chichi entre nous. Mais... monde meilleur, je ne pense pas. Plus stalinien, oui, certainement. Je crois.
Vous semblez très affecté par la mort récente de Turnover, votre caniche bavarois. Est-ce que cela se ressent dans votre travail ?
Oui, quand même un peu, mais... Quand je peins un portrait du Führer et que j'arrive à cette moustache si caractéristique, je pense à Turnover qu'un 30 tonnes a écrasé un matin, à ses longues vibrisses étirées qui donnaient un sens à ma vie.
Avez-vous alors perdu cette flamme qui vous animait lors de vos célèbres expositions Bite en furie en 93 et Fion dans tous ses états en 98 ?
Je crois pas qu'on peut dire cela, Stanislas. Vous êtes journaliste, êtes friand de ce genre de raccourcis faciles qui font vendre, mais n'allez pas croire que je ne dessine plus de bites. Seulement aujourd'hui, je les garde pour moi. Regardez par exemple sur la cheminée, là.
Et qu'en est-il de votre célébrissime Fion noir sur fond blanc ?
Pareil, je n'ai jamais arrêté, Stanislas. Seulement, le grand public ne les connaît pas, ou peu, ou si mal. Et pourtant, j'en suis à mon 3000e. Puis un ami artiste, Michel Bouliakov, m'a dit un jour « Mais pourquoi tu passes pas en couleur, mec ?» S'en est suivi la série des fions verts sur fond jaune, fions verts sur fond jaune, fions jaunes sur fions verts, et j'en passe. Enfin bon, voyez le concept. Plus original à mon goût, également fioncier sur fioncian, où je pense avoir atteint la potentialité totale de mon art.
Avec fion blanc sur fond blanc, non ?
Oui, peut-être plus avec fion blanc sur fond blanc, avec un S, bien sûr, à chaque mot. Mais c'est important.
Mais alors, que pouvez-vous faire encore après cela ?
Je sais pas, j'avais peut-être pensé me mettre au jokari.
Le marché de l'art vous a véritablement plébiscité avec vos bites en céramique contre la guerre en Irak. Vous qualifiez-vous d'artiste engagé ?
Oui, non. Je m'explique, je n'aurais pas été m'engager dans l'armée irakienne, par exemple, mais mon œuvre recherche plus une portée universelle, telle les constructivistes russes du début du siècle. Parce que je suis avant tout artiste, voyez-vous, monsieur. Ouais, un mec comme Malevitch m'a beaucoup influencé, mais là, je sens qu'il faut encore que je m'explique, non ?
Mais Malevitch ne voulait pas reconstruire la peinture, mais plutôt la révolutionner, non ? J'ai pas raison.
Il n'y a pas que du faux dans ce que vous dites, Stanislas. La peinture fait partie du monde. La peinture exprime le monde. Je fais de la peinture, donc j'exprime le monde.
Oui. Mais vous faites aussi partie du monde et vous exprimez également le monde. Cela veut dire que vous êtes la peinture ?
Est-ce que ça veut dire que je suis la peinture ? Je ne sais pas, j'avoue que je n'y avais pas pensé. Peut-être. Je crois que c'est au public de le dire.
C'est après cet entretien que l'artiste Chouvkov s'est levé et s'est posté face à sa fenêtre. Méditatif, il a contemplé le monde. Son regard semblait porter loin vers l'avenir, la flamme de l'espérance brillant dans ses yeux. Quel nouveau coup de génie l'artiste Chouvkov nous réserve-t-il ?
Le meilleur du pire de Radio Panique, c'est le Zapnik. Le Zap.
C'est le Zapnik.
Oasis, Colombia.
Docteur Hans, Docteur Hans, Docteur Hans, c'est pas Mickey Mouse.
Menant à la domination impérialo-américano-sioniste, franc-maçonno-charpenteau. Enfin, je pense que j'ai fait le tour.
Oui, c'est ça, ça agite les bras et que je te fais la mouette, un pas en arrière, un pas en avant, un pas de côté, enfin, faut pas déconner.
Je dois dire que j'ai été un peu déçu que mon personnage meure à la fin, oui.
Oui, ben, d'autant plus que c'est complètement inattendu. Hein. Il reçoit la visite de son père, qui lui annonce qu'il est bien son père. Et là, il se fait mordre par le renard qui le traîne jusqu'au pays des enfers pendant qu'elle est chez son amant.
Non, en fait, il ne meurt pas, Marianne.
Ah bon ?
Oui, ce n'était qu'un rêve créé par la machine à souvenirs.
Je vous arrête, mais la machine à souvenirs n'avait-elle pas été cassée au début du film ?
Oui, c'est vrai, il a raison, ça tire pas de vous.
Mais non, vous n'y êtes pas du tout. Au début du film, la machine que l'on voit se pulvériser en morceaux à cause des ondes thermonucléaires provoquées par les orages magnétiques que le professeur Zemix manie à sa guise n'était que factice, créée en série par un logarithme ultra-puissant de la secte Alpha.
Ah, je me disais aussi, ah ouais.
Mais je comprends mieux.
Mais oui, d'autant plus que je ne sais pas si vous avez remarqué ce détail dans le plan séquence du début, mais celle-ci était réglée sur 3. C'est qui, selon le manifeste de la secte Alpha exposé en prélude du film, ne peut que conduire à un renversement magnétique des pôles, d'où inversion. C'est pour ça qu'au début, vous croyez que vous étiez mort.
Ah, mais ma mère, quand elle dit « j'en étais sûr », c'est parce qu'elle était au courant depuis le début. Ah, mais oui, en fait, oui, je comprends mieux. C'est parce qu'elle faisait partie aussi de la secte.
Non, pas du tout, Brian. Au contraire. Son amant, oui, mais pas elle. C'est même elle qui est à l'origine du complot visant à réduire à néant le pouvoir du terrible dictateur The Bix 580. Il faudrait que vous revoyiez le film, Brian. Avant la cérémonie de samedi, ce serait judicieux, je pense.
Ah, mais moi, j'avais pas compris ça non plus. Hein. Je pensais le contraire.
Mais, en fait. Non, voyons, enfin, c'est pourtant simple. C'est parce que vous y prenez mal. Il faut regarder le film d'un point de vue macro-narratif, méta-cinématographique, sans oublier de le voir sous le prisme d'une esthétique et narration godarienne, telle qu'elle se situe dans Alphaville, une étrange aventure de Lemmy Kosciuszko, par exemple, pour ne citer qu'un de ses films les plus célèbres et modèle en science-fiction.
Alphaville, vous dites. Vous connaissez Brian,
oui ? Oui, bien sûr. Je m'en suis même inspiré pour mon personnage.
Oui. Steven Spiegel, quelles sont donc vos méthodes de travail pour votre direction d'acteur ? Lui avez-vous conseillé certains rôles dès qu'elle s'inspirait dans des films de certains de vos collègues ?
Oui, mais c'était Pierrot le Fou.
Comment ?
Oui, je lui avais conseillé de s'inspirer de Pierrot le Fou pour travailler son rôle, pas d'Alphaville de Godard, de Godard également, mais pas du tout dans le même registre.
Ah, moi je croyais parce que je veux. Enfin, c'est de la science-fiction aussi, alors je me disais.
Mais non, pas du tout.
Ah, autant pour moi, excusez-moi, ouais.
Pas grave, Ryan, c'est pas grave, on en est tous là d'ailleurs. Quel film, Ryan, de Steven Spiegel avez-vous aimé ? Et qui vous ont peut-être incité à accepter ce rôle de Peter Van Callaghan dans cette super production internationale ?
Oui, j'ai beaucoup apprécié, notamment Tornade sur le Mississippi, ainsi que les revolvers de l'oncle George sont toujours chargés.
Brian, Tornade sur le Mississippi, ce n'est pas de moi.
Ah bon ?
Je n'étais que scénariste. Quant au revolver de l'oncle George, je n'étais qu'assistant réalisateur. C'est un film de mon mentor en cinéma, Stanley Kubrick, que je salue par ailleurs.
Pardon, je croyais, enfin...
Et non, Brian. Non.
C'est curieux, Steven. Moi aussi, je croyais que... Enfin, bon, peu importe. Je crois que vous avez donné, en tous les cas, envie à nos auditeurs de se précipiter dans les salles obscures pour y dévorer votre dernier film qui s'appelle... Le titre m'échappe, Steven. Pouvez m'aider, s'il vous plaît ?
Bien sûr. La sirène de la secte Alpha ou les rêves tourmentés d'une rétro-embuscade à pôle magnétique inversé.
Oui, voilà, c'est ça. Donc allez voir la sirène de la secte Zénix dans toutes les bonnes salles de cinéma.
Ou les rêves tourmentés d'une rétro-embuscade à pôle magnétique inversé. J'y tiens, sinon on risque de ne pas comprendre la mise en abîme de la fin et l'effet de boucle maubusienne, si j'ose dire.
Oui. Voilà, comme il dit. Hein. Et merci à vous, Brian, d'être venu dans cette émission.
Non, merci à vous. Ça m'a permis de faire un peu le point sur le film. Il y avait... une chose ou deux qui m'avait échappé, je dois dire, mais effectivement, vu sous cet angle, bah non, sa mère.
Et oui, Brian.
C'était aussi son père.
Mais oui, Brian.
Oh, ça alors, putain.
Oh, si on m'avait dit ça. Bon, mais c'était Des Poux dans la tête, l'émission consacrée au cinéma, compliquée, pour ne pas dire carrément complexe. La semaine prochaine, nous recevrons John Sullivan pour son film Le Désintégrateur Atomique.
Bienvenue dans ce Masque ou la Burne, consacré cette semaine aux arts de la... Au revoir.
Au revoir.
Au revoir.
The District, Youngblood. Un peu de sang frais.
Burn her lights, all my muscles in vain. Blow. foutre. Foutre, translucide passion à l'océan de l'amour. Tu substitues ton venin et craches en mes mains. Toute ta douceur, son velours, ton cœur, ta raison. Oh, toi foutre, je t'ai chéri contre mon sein et t'appelle encore ma mort.
Bravo. Bravo, 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 bravo René, bravo. Ça c'était sacrément bien torché ça ma foi, bravo René.
Merci Michel.
Et toi Dédé, vas-y le tien, allez là. Allez les gars.
Vas-y Dédé, vas-y.
Allez, ça envoie du bois.
Allez. Si vous y tenez, je tiens à dire que c'est peut-être pas encore au point, mais bon.
Ouais, si fais pas ta timide Dédé.
Si vous y tenez.
T'es meilleur que moi, t'es champion Dédé.
T'es un champion.
Tu es champion.
Bon. Oh toi ma belle, ma douce, mon hirondelle, je t'aime, c'est peu de le dire, ne peux vivre sans ta dentelle. Voilà, c'est fini.
Ah oui, pas mal aussi, Dédé, court mais efficace. C'était comme... comment qu'on appelle ça déjà, le truc de japonais?
Haïku.
Ah ouais, merci René, c'est ça, haïku. T'es le meilleur toi René, ouais. Il ressemble pas à grand chose comme ça, mais un vrai puits de culture, hein, vraiment. Voilà, merci à tous deux pour ce grand moment d'émotion. C'était beau, c'était charnel, c'était surtout la poésie dans le caniveau. L'émission de poésie populaire ou l'émission populaire de poésie, vous choisissez. Au revoir.
Au revoir.
Au revoir. Salut. 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 Et à la prochaine fois.
Le meilleur du pire de Radio Panique, c'est le Zapnik. Le Zap.
Ouais, le Zapnik avec René, Dédé.
Ouais, gros.
Vas-y, c'est le Zapnik. Même pas bourré.
Vous êtes bien à l'écoute.
Ouais, t'es bien à l'écoute, toi aussi. Alors, Dédé, elle propose Alt J, Left Hand Free.
Hey, shady baby, I'm hot like the prodigal son. Big a battle, leany, meany, money, moe, and flower, you're the chosen one. Well, your left hand's free. Street.
Michel Taupigné, on me fait dire que même chez les zoophiles, il y aurait des tensions. Nous qui croyons que la zoophilie était une grande famille que rien ne pouvait désunir, qu'en est-il exactement, Michel ?
Vous savez, Patrick, comme dans toutes les familles, il y a des canards boiteux, hein, sans mauvais jeu de mots. À l'amicale laïque des zoophiles de Toulouse, et oui, je ne vous le cache pas, Patrick, il y a bien de broches, hélas, bien définies. Il y a les zoochasseurs, si je puis dire, et puis les autres, plus modérés, les zoécolos, dirons-nous.
Puis-je vous demander de quelle branche vous faites partie,
oui,
Michel ?
Bien sûr, Patrick, pas de soucis. Vous savez, j'assume mes opinions au grand jour et cela depuis bon nombre d'années. Pardon. Je fais en effet partie de la gauche de la zoophilie. Mais attention, hein, la gauche modérée, bien sûr. Hein. C'est un milieu assez conservateur. N'allez pas croire qu'on peut tout bouleverser comme ça d'un coup et au grand soir. Non, 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 c'est pas ça du tout. Il faut y aller étape par étape, selon moi en tout cas. Évolution, oui. Révolution, non, comme j'aime à le dire souvent.
Oui, racontez-nous un peu votre parcours. Comment êtes-vous venu à ces idéaux ? Comment avez-vous construit vos convictions, Michel ?
C'est avant tout familial, je dois dire. Dans ma famille, nous sommes zoophiles de père en fils. Mais pas que, bien sûr. Sinon, je ne serais pas là pour vous parler. Si vous me permettez cette petite plaisanterie assez osée, je dois dire, Patrick.
Mais bien sûr, Michel. Je vois que vous êtes pétri d'humour et surtout, c'est important de recul sur soi-même, d'autodérision plus précisément.
Oh, vous savez, je n'ai pas beaucoup de mérite. Hein. Nous autres zoophiles, comme qui dirait, nous sommes un peu forcés de nous construire une armure face à toutes ces moqueries, aux colibés, aux insultes. Et l'humour est vraiment une armure pour nous. Nous, oui, et ben, excusez-moi, mais ça me fait un peu mal. Hein. Nous recevons même parfois des menaces de mort et sommes régulièrement agressés. Ce n'est pas tous les jours facile d'assumer ses opinions. C'est même parfois très dangereux, Patrick. Trop de mes collègues sont partis trop tôt. Victime d'agression zoophilophobe.
Oui, je comprends, Michel, mais soupçonnez-vous quelqu'un en particulier ? Avez-vous des noms ?
Oui et non. Je soupçonne toutes les ligues de défense des animaux dans la région en général, mais personne en particulier. Et notamment la SPA de Toulouse. Qu'est-ce qu'ils ont pu nous emmerder ?
Oui, oui, je vois, mais revenons à vos convictions politiques, Michel. Que défendez-vous en particulier en tant que zoophile de gauche ?
Mais tous les animaux, Patrick.
N'est-ce pas un peu contradictoire ?
Pas du tout, Patrick. J'ai bien peur que vous retombiez dans le vieux cliché du zoophile qui serait nécessairement violent, brusque, et des animaux qui seraient donc fatalement des victimes. Non, non. Nous défendons, tous les animaux que nous élevons et leur assurons les meilleures conditions d'hébergement possibles.
Que vous élevez ? Enfin, je comprends pas bien, Michel.
Oui. Nous assurons ainsi la reproduction des espèces que nous protégeons et gardons ainsi à portée de main, si j'ose dire, les animaux que nous aimons. Mais rassurez-vous, ils ont beaucoup d'espace pour courir, pour gambader. Et puis nous sommes à la campagne, ils ont l'air pur, vraiment les conditions idéales. Et ils sont nourris bio aussi. Hein.
Je n'en doute pas, Michel, j'en doute pas. Eh bien, merci Michel pour cette entrevue. Encore une fois, ce fut passionnant et je pense que vous avez tenu en haleine bon nombre de nos auditeurs.
Oui, j'espère que ça donnera envie aux jeunes surtout de nous rejoindre. Nous manquons de nouveaux talents et il nous faut renouveler les générations. Nous faisons, je dois dire, un petit peu vieillissant nous autres.
Et il est vrai que votre association et toutes les autres amicales de zoophilie en France notamment, mais aussi dans bon nombre de pays d'Europe, sont beaucoup issus du mouvement de mai 68 et de l'esprit contestataire des années 70.
Tout à fait, Patrick. Je parlais des zoochasseurs tout à l'heure. Je dois préciser qu'ils sont minoritaires et que notre mouvement est avant tout libertaire et dans une moindre mesure égalitaire.
Égalitaire ?
Oui. Il n'y a pas de favoritisme. Chacun a le même accès aux bêtes dans notre élevage. Personne ne peut s'en aller, par exemple, pendant toute une semaine avec notre âne Firmin ou la poule Bernadette. Que je salue par ailleurs, ça priverait les autres de toute la douceur de ces derniers, de Bernadette aussi. Enfin bref, nous partageons quoi. Contrairement aux zoochasseurs, où là c'est chacun pour soi, et les plus faibles sont éliminés. Et c'est
impitoyable. Bah dis donc Michel, quel monde impitoyable. Comme quoi rien n'est jamais tout blanc, hein. Même en s'entourant d'animaux merveilleux, l'homme arrive toujours à entacher les quelques moments de bonheur qu'il a pu se créer. Michel, au revoir et à une prochaine fois. À très bientôt, j'espère.
Oui, au revoir. Ce serait un très grand plaisir pour moi, Patrick, de revenir à votre émission.
Plaisir partagé, Michel. Revenez quand vous voulez.
Permettez-moi, j'en profite, Patrick, pour faire un petit coucou à Joël, Léo, Dédé, la Filoche, et à tous les gars de l'Amicale. Sans oublier le coq Tanguy et la Neufirmin.
C'était Zoophilie et Politique, une émission présentée par Patrick Entrejean sur Radio Zoophile, bien sûr, la radio des zoophiles qui s'assume. Tout de suite, Zoologie, une émission présentée par Bernadette Custandus.
In the grace of your love, no one can ever die. In the grace of your love, every day when I wake up. In the grace of your love, in the grace of your love.
À la semaine prochaine.